Merci à vous pour l'invitation aujourd'hui. Je vais donc vous parler d'un dispositif de formation et de recherche qui a un certain nombre de points communs avec les Léa, raison pour laquelle Brigitte notamment et Réjeanne ont eu la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. Je vais commencer donc par décrire un petit peu ce que sont les lesson studies en partant de leur origine japonaise et en donnant des exemples d'applications que nous faisons du côté de Lausanne. Et puis le cœur de ma présentation sera de parler des lesson studies et de cette collaboration autour de l'objet leçon, à la fois pour la formation des enseignants, puis pour le développement de ressources, pour l'aspect de recherche, la recherche avec les enseignants, mais aussi la recherche en didactique des mathématiques. C'est le domaine que je connais, mais vous pouvez remplacer didactique des mathématiques par d'autres didactiques, voire par des recherches plus transversales en sciences de l'éducation. Et puis, dernier point, ce sera le lien que permet ce dispositif de lesson study entre recherche et pratique, entre transversale et didactique, et entre les acteurs de l'éducation. Vous voyez donc déjà, rien qu'à l'énoncé de ce plan, qu'il y a beaucoup de points communs entre le dispositif de lesson study et les objectifs que poursuivent les Léa, pour ce que j'ai pu en voir pour l'instant. Et je terminerai de façon fort originale par une conclusion, et il y aura ensuite, en principe, des questions et une discussion. Alors, pour présenter un petit peu ce que sont les lesson studies, leur origine et de façon générale quelques applications que nous en faisons à la Haute École Pédagogique de Lausanne, je vais utiliser un autre mode de présentation mobile, le voici, et vous parler donc d'un laboratoire qu'on a créé il y a 2 ans maintenant, un laboratoire lausannois lesson study. À l'occasion de la création de ce laboratoire, on a fait un poster. Ce poster qui existe ici en version française, je vais m'en servir pour quelques éléments de ma présentation tout à l'heure. Il a été aussi traduit en anglais. Il est publié dans un journal, le International Journal of Lesson and Learning Studies. C'est d'ailleurs intéressant de savoir que des journaux commencent à publier des posters, ce qui donne un autre mode de communication scientifique que la traditionnelle présentation et le résumé qu'on en fait et qui suit. Ce laboratoire Lesson Study a aussi un site internet dont voici l'adresse. Et puis, sur ce site internet où on trouve bon nombre de renseignements, il y a également à télécharger une brochure en format papier. Si certaines personnes sont intéressées, j'en ai pris un certain nombre à vous distribuer le cas échéant. Cette partie promotionnelle est en fait. Quelques mots donc sur les Lesson Study, tout d'abord de façon assez générale et notamment du point de vue de leur origine. Alors, ces lesson studies, elles sont nées en fait au Japon, où dans les années 1890, des enseignants, suite à une réforme du système éducatif, là-bas aussi, là-bas déjà, se sont mis à se réunir entre eux. Ça venait de la base, ça venait des enseignants, pour travailler autour des leçons sur lesquelles ils devaient appliquer de nouvelles méthodes éducatives. Ils se sont réunis pour préparer ces leçons, ils se sont réunis pour assister aux leçons que les uns et les autres donnaient dans leur classe et pour améliorer les leçons qui étaient données d'un point de vue itératif. Et ce processus a continué à se développer au Japon pendant plus d'un siècle, donc des années 1890 aux années 1990. Et au moment de la vague des études internationales, PISA, TIMSS, etc., etc., une des choses qui est apparue dans ces études qui, pour certaines, notamment l'étude TIMSS vidéo, allait regarder les pratiques des enseignants dans les classes, c'est des différences importantes entre les pays et par contre une certaine uniformité à l'intérieur d'un pays. Et notamment ce qui est apparu très fortement, surtout sur des leçons de mathématiques entre le Japon et les États-Unis, c'est une pratique au Japon qui était très fortement axée sur la compréhension et sur une approche par le problème, alors que c'était une pratique qui était extrêmement figée, technique aux États-Unis. Et ça donnait d'ailleurs l'occasion à Higler et Stibert d'écrire un livre qui s'appelait The Teaching Gap, le fossé de l'enseignement, en comparant notamment le Japon et les États-Unis, et en donnant une des explications des pratiques innovantes au Japon, et qui était justement cette pratique du Jugyokienku, traduit en anglais par étude de leçon, pardon, lesson study en anglais. Et donc au moment de ces études-là, les États-Unis sont très forts pour essayer d'importer ce qui marche dans d'autres pays, et notamment suite aux travaux de Catherine Lewis, qui a d'ailleurs fait un exposé il y a une année et demie ici même, certains d'entre vous y étaient, d'importer ce dispositif aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs depuis les États-Unis qu'ensuite ce processus a essaimé dans plusieurs pays du monde. Il est actuellement fort développé en Europe du Nord, dans les pays scandinaves ainsi qu'au Royaume-Uni. On trouve également des pratiques de lesson study au Portugal, en Turquie. On en trouve à Lausanne maintenant. Et d'autre part, on en trouve beaucoup dans les pays en développement où le Japon dépense une bonne partie de son aide au développement dans le soutien au système éducatif par ce processus de lesson study dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie en développement et dans les pays d'Amérique latine également. Je parle de lesson study, mais je m'aperçois que je ne vous ai pas encore expliqué ce dont il s'agissait. Il est donc grand temps que je le fasse et que je décrive le cycle de lesson study tel que formalisé par Catherine Lewis. Alors, il y a certaines variantes, je ne vais pas entrer dans ces variantes, mais juste vous décrire un petit peu le principe général de ces lesson study. Dans ces lesson study, un groupe d'enseignants, souvent des enseignants d'une même école, se réunit, parfois avec un ou des formateurs, parfois purement à l'interne d'une école, et choisit un sujet d'enseignement qui pose problème à ces enseignants-là, qui pose problème soit du point de vue de l'enseignement, soit du point de vue de l'apprentissage de leurs élèves, et ils décident de travailler pendant un certain temps autour de ce sujet d'enseignement-là. La première étape pour eux va consister à étudier ce qui existe à propos de ce sujet d'enseignement. Ça peut être un sujet de mathématiques, ça peut être un sujet de langue première, un sujet de géographie, d'histoire, d'éducation physique, de musique, ou tout ce que vous voulez. Il va donc étudier ce qu'on appelle en anglais le curriculum, c'est un sens, je crois, un tout petit peu différent en français. Il est plus large en anglais, donc c'est vraiment les plans d'études, les manuels, le sujet, les documents d'accompagnement, des articles de revues professionnelles sur le sujet, etc., etc. Et se donne des buts d'enseignement à propos de ce sujet-là. Le groupe va ensuite planifier une leçon, très en détail, à propos de l'enseignement de ce sujet-là. Il va aussi regarder ce qui doit être fait avant la leçon, ce qui peut être fait après, la place de ses connaissances dans les années suivantes, mais essentiellement planifier une leçon. Et cette leçon, elle va être donnée, enseignée par un des membres du groupe dans sa classe, sa vraie classe avec ses vrais élèves, et observée par les autres membres du groupe qui ont donc préparé cette leçon. Je vous ai mis là une photo d'une des enseignantes d'un de nos groupes à Lausanne. Le groupe se réunit ensuite, généralement immédiatement après la leçon, et va analyser cette leçon à partir du plan de leçon qui avait été fait, qui donnait aussi une grille d'observation de ladite leçon. Il va analyser cette leçon. Il va essayer de voir quelle adéquation il y a entre les observations et les buts qui avaient été fixés à la leçon. Et puis, il va peut-être se dire qu'il serait bien de travailler encore là autour. Et il va réétudier, il va replanifier une deuxième leçon sur le même sujet, leçon qui va être enseignée dans la classe d'un deuxième enseignant, observée toujours par tout le groupe, et qui va être analysée ensuite. On a des cycles qui peuvent se dérouler sur une seule leçon, des cycles qui peuvent se dérouler sur deux leçons, voire sur trois leçons. Le cœur de ce dispositif de lesson study, c'est la leçon qui est appelée généralement leçon de recherche, et qui est donc donnée dans la classe d'un des enseignants, d'une des enseignantes. Là, c'est le cas de notre groupe, d'un de nos groupes lausannois que je présenterai tout à l'heure avec des élèves. Et vous voyez donc les collègues qui sont en train d'observer. Là, c'était le début de la leçon. Alors ça fait une petite dizaine de personnes dans la classe. Mais ce qui se fait en Asie, alors on ne l'a pas encore testé à Lausanne, c'est des lesson studies de beaucoup plus grande taille. Ça, c'est une leçon à Singapour à laquelle j'ai assisté. Là, c'est moi qui prenais la photo. Avec une cinquantaine de personnes qui observaient la leçon. Là, vous les voyez assises autour de la classe. Et puis, à un moment donné, les élèves se sont mis à travailler en groupe et tous les observateurs se sont levés, ont été observer le travail des élèves, noter ce qui se passait en fonction des buts de la leçon qui avait été discutée auparavant avec les 50 personnes. Mais évidemment, pourquoi ça reste en si bonne voie ? Parfois, cette observation peut réunir tous les enseignants de l'école. Là, ça doit être dans la salle de gym, les élèves sont sur la scène et la leçon est donnée devant toutes les personnes de l'école. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Ça, je n'y ai pas assisté, mais c'est donc une leçon au Japon, devant plus de 3000 personnes. Les élèves sont vraiment sur la scène et ça permet du coup aussi au système éducatif d'évoluer, aux pratiques de se partager, puisque ça donne lieu à toute une journée de travail des enseignants qui assistent à ce type de leçon-là. Environ une fois par année au Japon, les enseignants se réunissent et vont dans une des écoles de la ville suivre une leçon de ce type. Le travail que je vais vous présenter du point de vue de la formation et du point de vue de la recherche, c'est un projet qu'on a appelé Lesson Study en mathématiques, qui réunissait 8 enseignants de CE2, CM1. Je traduis en français de Gaulle. Et 2 coachs. Alors moi-même qui m'occupe de didactique des mathématiques, et puis ma collègue qui est une spécialiste des processus d'enseignement et d'apprentissage, qui utilise beaucoup les cadres vygotskiens. Et on anime à 2 ce groupe, donc 8 enseignants et puis les 2 coachs. On a fait durant les leçons 4 cycles de lesson study, donc avec parfois plusieurs leçons, jusqu'à 3 voire 4 leçons. Un cycle sur la numération, un cycle sur les transformations géométriques, et puis 2 cycles l'année passée sur la résolution de problèmes. Je vous présenterai un petit peu plus en détail certains de ces cycles tout à l'heure. Ça donne lieu, ce genre de choses, à la production d'un plan de leçon. Les données qu'ont recueillies les enseignants et le plan de la leçon est diffusé sur Internet. Là aussi, je vous présenterai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, à la fin du processus, les enseignants vont écrire un article. Alors, je vous montre la version provisoire de l'article. On va l'envoyer aujourd'hui à une revue professionnelle des enseignants de Suisse romande qui s'appelle L'Éducateur, où ils essayent de réfléchir sur l'ensemble du processus qui les a conduits à travailler pendant 2 ans en tant que groupe. Autour de ce dispositif de formation, nous avons choisi, alors dans certains cas, il n'y a pas de recherche sur le processus, là nous avons choisi de tout enregistrer en vidéo, de tout transcrire, de tout mettre dans un logiciel qualitatif d'analyse de données, et d'analyser ces données. Alors là, on commence à les analyser, principalement selon 3 axes. Un des axes, c'est de voir les adaptations nécessaires à ce processus de lesson study dans le contexte de la Suisse romande. Un des axes, c'est de voir quel est le rôle de ce qu'on a appelé pour l'instant des coachs. Ça nous plaît que moyennement. Si vous avez d'autres termes plus adéquats, j'aime bien facilitateur en anglais, mais c'est un peu lourd. Enfin, bref. Et puis, un troisième axe dans lequel je m'inscris sur le développement professionnel des enseignants avec un des axes de recherche sur l'évolution des pratiques enseignantes. Il y a une thèse en cours sur le sujet. Avec quelque chose sur l'évolution des connaissances mathématiques pour l'enseignement, c'est moi qui vais m'en occuper, et quelque chose qui est plus sur les connaissances plus générales sur l'enseignement et l'apprentissage. Alors ça, c'est un des groupes de lesson study que nous conduisons à Lausanne. J'aimerais juste vous en présenter très rapidement, là je refais un petit bout promotionnel, d'autres types de lesson study que nous faisons. Là aussi, ces projets sont listés sur le site 3LS, Laboratoire Lausannois Lesson Study. Juste vous dire qu'il y a d'autres types de formations continues. Par exemple, un projet qui démarre sur l'enseignement des sciences au petit degré, là on est au CP. Un projet qui démarre sur l'enseignement de la géographie et de l'histoire dans plusieurs degrés primaires. Vous signalez qu'il n'y a pas que des maths et des sciences. Et puis, à l'autre extrémité du point de vue des âges des élèves, un projet qui démarre sur l'enseignement de la physique au lycée, où ils vont parler d'électrocinétique. Donc là, on est vraiment même en fin de lycée, avec 2 collègues qui vont travailler du point de vue de l'enseignement de la physique. On travaille aussi avec des lesson studies sur des projets qu'on appelle PIRS à l'HEP Vaud. C'est des projets d'échange entre 3 étudiants de l'HEP et 3 étudiants d'une institution de formation à l'extérieur de la Suisse. Là, c'est le cas d'une collaboration avec Singapour, à laquelle j'ai participé, où on est parti avec 3 étudiantes à Singapour. On a construit la leçon avec 3 étudiantes singapouriennes, à 8 avec les deux formateurs. Ensuite, les leçons ont été conduites 3 fois, faites, refaites et refaites, à Lausanne et à Singapour. Et puis, les Singapouriens sont venus à Lausanne et ils ont assisté à la 3e leçon. On a ainsi pu comparer l'évolution différenciée de 2 leçons qui étaient pourtant parties avec un même point. Alors, ça peut être Singapour, ça peut être aussi quelque chose qui est géographiquement plus proche. Alors, je le signale puisque Brigitte est assise au premier rang. Et il y a un projet qui démarre entre Mylène Ducret et Brigitte, entre l'HEP Vaud et l'ASP de Bretagne, sur l'enseignement de l'anglais. Et qui démarre cette année un peu sur le même principe, je crois, d'échange et de pratique de lesson study avec des étudiants en formation initiale. On travaille aussi en formation complémentaire. On a un projet qui roule depuis plusieurs années où ces lesson studies sont utilisées pour une formation complémentaire en activité créatrice manuelle. Là aussi, tout autre type de discipline qui est utilisée. Et puis, dernier point que je signalerai dans les types de lesson study que nous menons, c'est des micro-lesson study en formation initiale. On a des volets de futurs enseignants primaires d'environ 300-350 étudiants et ils travaillent avec des micro-lesson study dans le sens où ils vont préparer une petite interaction avec un élève Cette interaction va être faite dans la classe de stage d'un des étudiants. Elle va être enregistrée en audio, transcrite, et puis va revenir vers ses collègues pour analyser cette interaction et prévoir une interaction du même type avec un autre étudiant qui va être faite avec un autre élève dans sa classe et travailler là aussi de façon itérative avec ce type de processus. Voilà pour les types de lesson study que nous travaillons dans le cadre de ce laboratoire lausannois. Alors, comme je l'ai annoncé, je vais essayer de développer les points qui sont travaillés avec ces lesson study, d'abord du point de vue de la formation des enseignants. Si on regarde ce qui se trouve dans la littérature à propos du développement professionnel ou de la formation continue des enseignants, il y a un certain nombre de critères qui sont émis pour essayer de décréter, d'analyser quelles sont les conditions nécessaires ou favorisantes pour avoir des formations continues qui sont efficaces. Ça a été repris notamment par Aki Murata dans un livre qui s'appelle « Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education », dans laquelle elle mentionne la chose suivante. Les lesson study ont les caractéristiques qui, dans les recherches précédentes, favorisent le développement professionnel. Elles sont basées sur le local, sur les écoles des enseignants. Elles sont orientées vers la pratique. Elles se focalisent sur l'apprentissage des élèves. Elles sont collaboratives et elles sont liées à de la recherche. Le tout premier élément qui nous a frappé après la première leçon de recherche avec ce groupe de 8 enseignants en mathématiques à l'école primaire, immédiatement après la première leçon de recherche, on s'est donc réunis pour discuter de ce qui s'était passé pendant cette leçon. Et à aucun moment, on a dit à l'enseignante « tu as fait ça ». Mais ça a toujours été « on a fait ça ». Toutes les discussions étaient à propos non pas de l'enseignante, de ce qu'elle avait fait, mais de l'enseignement. Assez vite, on s'est dit « mais c'est notre avatar ». Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, si ça vous rappelle quelque chose, ces petits bonshommes bleus. Elle agissait vraiment pour nous, en notre nom, et c'est de l'enseignement, du coup, qu'on parlait, et non pas de l'enseignante. Cette dépersonnalisation de l'enseignement, en termes de formation, ça a permis tout d'abord, du point de vue du dispositif, de bien fonctionner, puisque les discussions ont été extrêmement ouvertes. C'est une des choses qui m'a le plus frappé avec ce groupe, c'est à quel point les discussions avec les enseignants étaient complètement ouvertes, pas de tabou, pas de peur de la part des enseignants, pas de peur non plus pour ouvrir leur classe. On craignait beaucoup parce qu'en Suisse romande, comme je crois en France, quand on commence sa leçon, on ferme la porte et on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et bien, à notre grande surprise, aucun problème de ce côté-là. On était souvent 10, 12 à regarder les leçons avec deux caméras, avec, enfin, vous imaginez tout le dispositif qu'il peut y avoir. À aucun moment, on a senti de gêne à ce sujet-là de la part de tous les 8 enseignants concernés. Alors, il nous semble que les causes possibles, c'est évidemment l'aspect collaboratif du dispositif, et vous le connaissez bien. C'est aussi le fait de se focaliser sur l'apprentissage des élèves, et du coup de se focaliser sur l'enseignement et pas sur l'enseignant, avec cet aspect avatar dont j'ai déjà parlé. Alors je vais l'illustrer un tout petit peu, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais du point de vue des connaissances mathématiques pour l'enseignement, c'est juste pour vous présenter le type de recherche qu'on peut commencer à faire là-dessus, puisque c'est un peu mon dada. Je signale le livre que j'avais écrit à la Pensée Sauvage sur l'influence des connaissances mathématiques des enseignants primaires sur leur choix d'enseignement. Vous n'êtes probablement pas familier avec ce cadre développé par Deborah Ball qui essaye de distinguer des types de connaissances mathématiques, à la fois des connaissances proprement du sujet mathématique, qui peuvent être des connaissances mathématiques communes ou des connaissances mathématiques spécifiques à l'enseignement, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, ou qui peuvent être des connaissances qu'on appellerait en français des connaissances didactiques, soit du point de vue de l'enseignement, soit du point de vue de l'apprentissage, ou alors des connaissances plutôt du programme et des moyens d'enseignement, des connaissances du curriculum. Juste quelques exemples à propos du premier cycle de lesson study que nous avons donc mené sur la numération. Je rappelle que les deux autres étaient sur les transformations géométriques, puis deux cycles, sur la résolution de problèmes. Alors, le point sur lequel on a commencé à travailler, c'est la question de la numération décimale de position. Les enseignants constataient que les élèves, pourtant de CM2, CM1. Ces élèves avaient encore des difficultés, notamment en passant dans les grands nombres, avec la numération décimale de position. On a donc commencé à regarder quelles étaient les erreurs des élèves. Connaissances mathématiques liées aux élèves. Quelles étaient les erreurs des élèves ? On a travaillé à la fois avec des erreurs d'élèves qu'ils ont amenées, mais aussi avec des erreurs d'élèves typiques qui étaient récoltées sur le site numération développé par Frédéric Tampier. On a regardé quels étaient les concepts mathématiques, notamment comment ils étaient enseignés, mais aussi quels étaient les obstacles mathématiques. Qu'est-ce qui est difficile dans la numération ? Et on s'est aperçu d'une chose assez étonnante, c'est que quand l'enseignante expliquait aux élèves comment faire des échanges, par exemple, entre une centaine, ça fait combien de dizaines, une centaine ? Eh bien, le raisonnement de l'enseignante était le suivant au tableau. Une centaine, c'est 100. 100, c'est 10 dizaines, donc une centaine, c'est 10 dizaines. Autrement dit, pour comprendre la numération décimale de position, il faut avoir compris la numération décimale de position. Et du coup, les élèves qui étaient en difficulté, évidemment, ben, ils étaient totalement largués par ce type de choses-là. On est là dans des connaissances mathématiques, on ne se demande pas comment enseigner, mais on est en même temps dans des connaissances qui sont spécifiques à l'enseignement, parce que décortiquer l'aspect décimal, l'aspect positionnel, ce type de choses-là, on n'en a pas besoin, évidemment, à part quand on enseigne. Et puis, autre question qui illustre l'aspect de la connaissance de l'horizon mathématique dans le cadre de l'équipe de Ball, c'est quel est l'avenir de la numération décimale de position, à quoi ça va leur servir plus tard. On a donc été voir un petit peu du côté des polynômes et ce type de choses-là, ce que ça peut vous donner dans la suite pour ces élèves-là. On a travaillé en référence, je l'ai cité, au travail de Frédéric Tampier, un article dans Grand N. On n'a pas été leur faire lire sa thèse, mais aussi sur le site numération.free.fr. Et ces références-là ont permis de naviguer entre des connaissances mathématiques de divers types. Ça a permis aussi de travailler sur une tâche d'un manuel français. On a été chercher quelque chose dans CapMath. Ça s'appelle un drôle de jeu de loi. Et on l'a transformé parce qu'il y a plusieurs trucs qui ne fonctionnaient pas dans le jeu, qui ne permettaient pas l'apparition des connaissances mathématiques qui étaient souhaitées. Là aussi, on navigue entre des connaissances du long d'étude, des connaissances de l'enseignement et des connaissances mathématiques spécifiques. Et puis, il y a une chose importante qui est apparue à l'occasion de ce cycle-là, c'est la distinction entre réussir et comprendre. Ce n'est pas parce que les élèves réussissent une tâche qu'ils ont compris. Et donc, ça provoquer vraiment une prise de conscience chez les enseignants du fait que, alors d'une part, on pouvait se méfier un tout petit peu, c'est pas parce qu'ils réussissent qu'ils ont compris, mais peut-être aussi qu'il fallait des tâches qui soient conçues de telle sorte que la réussite de la tâche nécessitait la compréhension de la notion mathématique et qu'on ne puisse pas réussir la tâche si on n'avait pas compris la notion mathématique. Et donc là, on est sur des connaissances liées aux difficultés des élèves et sur des connaissances liées à l'enseignement. Deuxième cycle sur les transformations géométriques. Je ne vais pas vous en dire beaucoup, sauf qu'on a travaillé donc sur des isométries et on a beaucoup travaillé sur la question de l'institutionnalisation des connaissances liées aux isométries en géométrie. Et puis troisième cycle et quatrième cycle, on a travaillé sur la résolution de problèmes. C'était ce que les enseignants souhaitaient le plus travailler. On l'a repoussé en deuxième année parce qu'évidemment, c'était le plus compliqué à travailler. Et là, on a travaillé sur les questions de représentation du problème et sur les aides qu'on pouvait apporter aux élèves. Là, on est donc plutôt sur les connaissances du volet pédagogique du contenu, connaissances didactiques. Et j'en dirai quelques mots plus tard à propos notamment de l'aspect recherche que les enseignants ont fait sur la résolution de problèmes. Alors, si on regarde ce qui s'est passé sur les deux ans et les progressions et les changements chez les enseignants, j'avais prévu une dia là avec des puces sur les points qui avaient été traités. Et puis comme j'ai reçu hier l'article qui allait venir dans l'éducateur, je me suis dit que j'allais plutôt vous lire la conclusion de cet article. Article qui a donc été entièrement rédigé par les enseignants. Et puis on a travaillé ensuite sur la mise en forme avec les enseignants et les coachs. Et puis je vais juste vous lire la conclusion parce que je pense que ça illustre bien ce que les enseignants... Initialement, j'avais prévu de venir avec une des enseignantes du groupe. Ça n'a hélas pas été possible, mais c'est pour moi une manière de leur donner la parole. Alors, je vous lis juste cette conclusion de l'article. Nous relevons que les apports de cette formation sont nombreux, concrets et qu'ils ont un impact direct dans la classe. Les échanges en groupe ont été riches et constructifs. chacun a constaté qu'il pouvait s'octroyer plus de liberté dans la mise en œuvre des tâches des manuels. Nous avons pris le temps de nous mettre le plus honnêtement possible à la place des élèves lors des analyses a priori des processus d'apprentissage. De plus, le fait d'avoir eu chacun l'opportunité d'observer quelques élèves durant toute la leçon nous a permis de prendre des notes rassemblant des faits et des observations d'une grande valeur. En effet, dans les conditions ordinaires d'enseignement, il n'est jamais possible d'avoir un œil sur le travail et l'évolution de chaque élève. On a une enseignante, elle est à 4 ans de la retraite. Après la première leçon de recherche, elle avait des larmes aux yeux. Elle est venue vers nous en disant « C'est la première fois que je peux observer des élèves du début à la fin d'une tâche de mathématiques. C'est la première fois de ma carrière que je peux les observer. » L'analyse des faits récoltés nous a également permis de vérifier immédiatement les connaissances positives, négatives, utiles ou inutiles des différentes interventions et renonces de l'enseignant. Là aussi, très fortement, ce qui apparaît chez les enseignants, c'est le fait de pouvoir voir immédiatement les effets de l'enseignement sur l'apprentissage et de pouvoir documenter cela. Nous avons enfin pris conscience du temps qui devait être accordé aux élèves pour entrer dans une résolution de problème. Et dernier paragraphe, grâce à cette formation, nous avons pris de l'assurance à améliorer notre maîtrise des contenus mathématiques qui généraient précédemment des doutes, on en a encore un peu, et des difficultés, on en a encore un peu, lors de notre enseignement. Voilà pour le point de vue des enseignants que je souhaitais un petit peu apporter à l'aide de la conclusion de cet article-là. Autre aspect de ces cycles de lesson study, c'est le développement de ressources. Les tâches avec lesquelles on a travaillé avaient une importance très grande dans les discussions que l'on a eues avec les enseignants. D'abord, souvent, c'était le point de départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait identifié, par exemple, sur la numération, par exemple, sur les transformations géométriques, qu'il y avait une difficulté d'enseignement, les enseignants arrivaient en disant « Ben voilà, cet exercice-là, chaque année, j'ai de la peine à le faire. » Ou « Celui-là, je l'ai mis de côté, je ne le fais plus. » Et donc, ces tâches constituaient souvent le point de départ. L'analyse de ces tâches et leur transformation a occupé une grande part des discussions et du temps de travail. J'ai peut-être oublié de préciser que ce groupe se réunissait à peu près à quinzaine, des rencontres d'une heure et demie, et ceci pendant 2 ans. Donc voilà un peu la durée du processus. Et puis, autre importance des tâches, ce qui a été beaucoup analysé, c'est d'essayer de voir l'effet de ces tâches sur l'apprentissage des élèves, ou parfois le manque d'effet, évidemment, sur l'apprentissage des élèves. Et donc, la question du lien entre la tâche, l'apprentissage et les aides, les étayages que peut apporter l'enseignant, a été très important. Cela dit, les discussions à propos des tâches ont passablement évolué en cours de processus. Au début du processus, la grande question, c'était comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les tâches ? Comment est-ce qu'il faut découper les cartes ? Est-ce qu'on les plastifie ? Des questions tout à fait concrètes. Et puis, au fil des 2 ans et de plus en plus durant la 2e année, la question c'était qu'est-ce qu'il y a derrière la tâche ? Quelles sont les mathématiques qui sont travaillées par cette tâche ? Pourquoi utiliser cette tâche ? Dans quel but ? Et puis aussi, la distinction entre réussir et comprendre, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, est-ce que la réussite à cette tâche signifie que l'élève a compris la notion mathématique? Est-ce que cette tâche permet de développer cette notion mathématique pour qu'elle soit réussie? Autre importance de la tâche, c'est la production de ce qu'on appelle un plan de leçon. Le plan de leçon, c'est à la fois, dans un premier temps, ce qui est travaillé pour préparer la leçon de recherche. C'est ce que l'enseignant qui va donner la leçon prend chez lui. C'est ce qu'il a sous les yeux pendant qu'il va donner la leçon. J'ai aussi oublié de préciser une chose, c'est que à chaque fois, on a eu des enseignants qui étaient volontaires pour donner la leçon, que tous les enseignants, sauf une qui a été en congé maternité à un moment donné, mais enfin, tous les enseignants ont pu donner au moins une leçon pour que ce soit observé par leurs collègues. Et puis, ces plans de leçon, ils sont ensuite développés et ils sont déposés sur le site internet du laboratoire. Pour l'instant, il n'y en a que 2. C'est ce qu'on a travaillé l'année précédente. Les 2 derniers sont encore en cours de relecture par les enseignants du groupe. L'idée étant de pouvoir diffuser ce travail à l'externe, à d'autres enseignants, Et il y a à la fois dans ces plans de leçons les fiches élèves qui sont vraiment prêtes à l'emploi. Hein. Là, vous avez carrément les petites cartes, unités, dizaines, centaines à découper avec les bonnes couleurs. Donc, c'est vraiment du clé en main qui est disponible pour d'autres collègues. Vous avez aussi la fiche enseignant relativement développée avec les indications pédagogiques. Et puis, il y a aussi toute une part sur le processus qui a conduit à cette leçon-là. Les errements, les questionnements, les erreurs, les renoncements qui ont dû être effectués pour préparer cette leçon. Il y a aussi le lien avec l'ensemble du curriculum, ce qui précède dans la séquence et ce qui suit, et éventuellement ce qui peut être travaillé dans les années suivantes à propos de cette même leçon. Donc cette importance de la tâche ne doit pas masquer le fait que la tâche est à la fois un but, le développement de ce plan de leçon, la leçon à préparer avec une tâche qui fonctionne bien dans la classe, c'est le but apparent. Mais en fait, ça n'est qu'un moyen pour les enseignants de travailler sur l'enseignement de cette notion mathématique. De ce point de vue-là, et le parallèle a surgi assez fortement dans le groupe, c'est un peu comme les élèves quand ils résolvent un problème. La solution du problème, c'est ça qui nous motive à avancer, c'est ça le but. Mais dans le fond, le but, ce n'est pas de résoudre le problème. Le but, c'est d'apprendre. Et de ce même point de vue, on oublie qu'on doit apprendre parce qu'on résout le problème, processus de dévolution du point de vue de la didactique. Et là aussi, il y a un processus de dévolution. On travaille autour de la préparation d'une leçon et de sa diffusion. Mais de fait, ce qui importe, c'est le développement professionnel des enseignants. On a essayé de le schématiser de la manière suivante. On a ce processus avec l'étude, la planification, l'enseignement, l'observation, l'analyse, la diffusion d'un plan de leçon. Ce qui est au centre de ce processus, c'est toujours l'apprentissage des élèves. Comment mettre en place une leçon pour que les élèves apprennent. Mais ça, c'est le but apparent qui va être apparent dans un cycle de lesson study, qui va être répété une deuxième fois sur une autre notion mathématique, une troisième fois, une quatrième fois peut-être. Mais ce qui importe et le but final de tout le processus, c'est bien le développement professionnel des enseignants, le développement de leurs connaissances professionnelles. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a un certain nombre de points communs qu'on pourrait tirer. Ça n'a pas encore, à ma connaissance, été suffisamment creusé, mais je pense qu'on pourrait creuser des choses avec des recherches de type design-based research, telles qu'elles sont pratiquées à d'autres endroits. Ça, c'était la question du développement de tâches et du développement de ressources pour les enseignants et par les enseignants. Troisième aspect, c'est l'aspect recherche avec les enseignants. Alors, dans l'ensemble de ce type de processus, et là aussi je parle à des personnes qui sont certainement convaincues puisque c'est assez proche des buts d'Eléa, les enseignants sont dans une attitude de recherche. C'est très visible dans le cas des lesson studies parce que finalement, ils se posent une question d'enseignement, ils ont un problème. Ils vont étudier ce qui existe, la littérature, à la fois le plan d'études, les manuels, les articles qui ont été écrits sur le sujet. Ils vont poser des hypothèses. Et pour vérifier ces hypothèses, ils vont designer. Ils vont mettre sur pied une expérience. Une expérience, c'est la leçon. Ils vont construire une leçon pour tester cette hypothèse. Ils vont collecter des données pendant cette leçon. Ils vont confronter ces données avec l'hypothèse. Et donc, on est vraiment dans une attitude de recherche expérimentale qui est assez typique. Cela dit, les enseignants du groupe, après les deux premiers cycles, ils étaient un petit peu frustrés quant à cette attitude de recherche, en disant, ouais, mais en fait, vous, les deux coachs, vous savez déjà ce qu'on aurait dû faire. Vous n'auriez pas pu nous dire. Bon, alors là, on leur a expliqué qu'évidemment, ils auraient moins appris ici. Puis qu'en fait, on n'était pas très sûr non plus de ce qu'on pouvait leur proposer. Mais au moment où on a commencé à travailler sur la résolution de problèmes, tout a changé. Parce qu'évidemment, on a pu essayer de distinguer ce qui était enseigné à résoudre des problèmes, enseigné par la résolution de problèmes, enseigné pour résoudre des problèmes. Mais on était très embêtés aussi pour leur fournir des solutions clés en main sur comment aider les élèves à résoudre des problèmes. Et en fait, là, on s'est mis tous en recherche. Et on n'avait pas beaucoup plus de réponses qu'eux. On leur a proposé notamment la lecture d'un article de recherche. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être, l'article de Julot sur la résolution de problèmes dans Grantaine et les questions de problèmes isomorphes et ce type de choses-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un article relativement ardu à lire. Et je voulais juste vous donner un petit extrait de la discussion qu'on a eue au moment de la lecture de cet article-là. Alors moi, je commence en disant, bah voilà, la dernière fois, on vous a dit, contrairement à l'année passée, cette fois, on est autant en recherche que vous, ce que je viens de vous dire. Vous comprenez pourquoi maintenant, ce qui venait de lire l'article de Julot à la maison. C'est vraiment ça le côté intéressant, mais... Puis alors là, il y a une enseignante qui intervient en disant, pour moi, ce genre de choses, ce genre de documents, il n'y a pas de démarrage, ou très peu. À la fin, il y avait deux dessins, donc à la fin, il y a des images, mais c'est un peu tout. C'est très rébarbatif pour moi, je suis très hermétique, assez, c'est dénaturé. Je sais que c'est des gens très sérieux qui écrivent tout ça, mais c'est difficile pour moi de comprendre, rentrer dedans, faire des liens avec mon travail de praticienne. C'est très difficile, voilà. Et puis on est retourné voir dans la transcription de la conversation et dans la vidéo. En fait, il y a 10 minutes de discussion sans qu'aucun des deux coachs intervienne, et c'est vraiment les enseignants entre eux qui discutent de l'article. Et puis à un moment donné, on sent qu'on arrive à la fin de la discussion, et la conclusion est faite, non pas par un des coachs, mais par une des enseignantes, qui dit la chose suivante. Au niveau du contenu du texte, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est une recherche. C'est vrai que ça ne donne pas vraiment des solutions, mais ça rentre quand même beaucoup dans le détail sur des situations auxquelles on est vraiment confronté. Et puis ça permet une réflexion, en fait, pour nous. Une réflexion méta. C'est vrai que c'est ultra théorique, mais c'est quand même ce qu'on vit au quotidien. Je dois dire que là, en tant que formateur et chercheur, on boit du petit lait, on est assez content quand on a ce type de conclusion-là, et je répète, ça n'a pas du tout été provoqué directement par des interventions des coachs à ce moment-là. D'ailleurs, sur cette question de la résolution de problèmes, on a senti qu'on n'avait pas de solution, et on a fait quelque chose qui est peu pratiqué normalement dans ce processus de lesson study, c'est une leçon d'essai, une leçon d'observation. Chacun des membres du groupe, donc les 8 enseignants et les 2 coachs, ont pris 3 élèves. Ils ont pris chacun 3-4 élèves. Et puis, ils ont observé ces élèves en train de résoudre un problème. Et c'est sur cette base-là que la leçon a été construite. Du point de vue de la recherche, alors là, je vais accélérer à la fois puisqu'il ne reste plus que 5 minutes. Du point de vue de la recherche en didactique des mathématiques, alors, signaler que du point de vue de la recherche en didactique des mathématiques, il y a un intérêt croissant de la communauté de recherche en didactique des mathématiques au niveau international. J'ai signalé le bouquin « Lesson Study Research and Practice in Math Education ». Il y a 2 articles dans l'encyclopédie de Math Education qui vient de paraître sur les « Lesson Study ». Et puis, vous avez un certain nombre de chercheurs qui travaillent avec ce type de dispositif, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit en Irlande, au Portugal. Il y a un certain nombre de thèses qui sont en cours. On a parlé tout à l'heure de liens avec la Chine. Il y a notamment une thèse qui est faite ici à Lyon avec Luc Trouche de Changyang Wang, qui est actuellement à Shanghai et qui comparera des éléments de Lesson Study avec des éléments d'ELEA. Donc là, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a aussi des groupes de travail qui tournent passablement autour des Lesson Study dans les congrès de Math Education au niveau européen, notamment le congrès CERME. En fait, ces Lesson Study, on peut s'en servir pour faire de la recherche. Parce qu'on a un type de données qui est assez particulier. On a la leçon de recherche, avec à la fois ce que font les élèves, ce qu'observent les enseignants. Je signale au passage qu'on a un logiciel qui fonctionne sur tablette, qui permet aux enseignants de prendre des notes de façon très détaillée durant la leçon. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer ça. Vous avez l'adresse aussi, lessonnote.com. On peut comparer avec le plan de leçon qui a été fait. On a les réflexions des enseignants sur la leçon de recherche, mais aussi sur la connaissance mathématique, sur l'enseignement et l'apprentissage en général. Et puis, on a accès au travail de préparation des enseignants, ce qui est évidemment extrêmement précieux pour des chercheurs et qui n'est pas facile normalement d'accès. On a des points communs avec l'ingénierie didactique, ça a été signalé par Miyakawa et Winslow et que j'ai repris dans un article en 2015. Et puis, ça a un lien aussi avec les ingénieries didactiques pour le développement et la formation, tel que développé par Marie-Jeanne Perrin-Glorian à l'école d'été de Clermont-Ferrand en 2009. Les actes sont parus en 2011. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin de cadrage théorique de ces lesson studies. Pour l'instant, elles sont beaucoup faites, notamment en Asie, avec un cadrage théorique qui est parfois et relativement flou. Et donc, beaucoup de chercheurs souhaitent un travail théorique autour de ces lesson studies. Alors, on a beaucoup de cadres transversaux qui sont utilisés. Je signale principalement la théorie de la variation, Martin, l'improvement science du côté de Catherine Lewis et des éléments de cadre historico-culturel qui sont utilisés soit en Asie et qu'on utilise aussi à Lausanne. Et puis, il y a aussi des cadres de la didactique des mathématiques qui sont utilisés. J'en ai mis quelques-uns avec les noms des personnes qui les utilisent, à la fois des connaissances mathématiques pour l'enseignement, de la théorie anthropologique du didactique, la théorie de l'action conjointe, la théorie des situations didactiques et la double approche dans la thèse de Valérie Bateau qui est en cours. Je ne m'étends pas là-dessus, mais signaler que de ce point de vue-là, un des espoirs que nous avons du point de vue de la didactique des mathématiques, c'est de pouvoir mettre en lumière les processus qui sont à l'œuvre dans les dispositifs de lesson study. Ça a été mentionné notamment par Miyakawa et Winslow dans un article de 2009, le fait que ce cadrage théorique de la didactique des mathématiques pouvait permettre de mettre en lumière les particularités du processus de lesson study dans les processus d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques. Dernier point, c'est l'aspect lien de ce processus de lesson study. Alors, je reviens juste au poster parce que quand on l'avait conçu avec des flèches pour montrer les liens qui étaient faits. Lien entre théorie et pratique, lien entre formation et recherche, je crois que je l'ai illustré dans les points qui précédaient. Lien aussi entre formation initiale et formation continue, développement professionnel. On commence à avoir des étudiants qui travaillent avec ce type de dispositif en formation initiale et qui continuent, une fois qu'ils sont sur le terrain, à souhaiter travailler de cette manière-là avec leurs collègues et à développer des formations continues avec leurs collègues. Autre aspect, c'est le lien entre transversal et didactique. Ça, c'est une de nos particularités. C'est qu'on essaye de mener toutes nos lesson studies entre un aspect transversal et un aspect didactique. Ça peut être des maths ou des sciences, mais ça peut être d'autres disciplines. Et on tient beaucoup à cette particularité. Je tiens à signaler que ça a eu des effets sur toute la formation à la Haute École Pédagogique de Lausanne, puisque des équipes qui ne se parlaient pas travaillent maintenant ensemble grâce à ce processus-là. On a développé d'autres choses sur cette base-là. Et puis, il y a aussi, entre le système scolaire et l'équipe enseignante, on a dans notre laboratoire des directeurs d'établissement, des inspecteurs, des enseignants, des chercheurs. D'ailleurs, si on va regarder sur le site la liste des enseignants, des chercheurs et autres, on trouve ces diverses catégories, on les a classées simplement par ordre alphabétique et on a à la fois une directrice d'établissement, des enseignantes de terrain, des étudiants, des chercheurs qui participent à ce laboratoire et qui apprennent les uns des autres et qui apprennent ensemble autour de cet objet leçon. Et puis, il y a aussi au niveau international. Alors ça, c'est il y a 5 ans, les pays qui participaient au congrès de l'Association mondiale des lesson studies. On pourrait en ajouter d'autres cette année. Cette année, ce congrès, d'ailleurs, il aura lieu dans 2 semaines en Thaïlande, à Konkan, où je vais aller. Et c'est des congrès qui sont très particuliers parce qu'à la fois, ça réunit des personnes du monde entier. Ça réunit des personnes de pays développés et de pays en développement. Ça réunit des enseignants. Ça réunit des cadres scolaires. Ça réunit des chercheurs. Et ça donne quelque chose qui est extrêmement intéressant du point de vue de ces liens qui peuvent être effectués. Mais là aussi, je crois que vous êtes convaincus en tant que participants à DELE. Et puis, ça permet aussi de voyager, ça permet d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. J'aurai la chance d'avoir un congé scientifique le semestre prochain que je vais passer aux États-Unis et au Japon pour essayer d'aller voir un petit peu encore plus précisément comment se passent ces lesson studies dans leur biotope plus original que celui de la Suisse romande. Concluons. Comment est-ce que les lesson studies améliorent l'enseignement? Alors, juste une petite misconception. Et je reprends là une diapositive qui a été présentée ici même par Catherine Lewis il y a 1 an et demie. Quand on regarde les caractéristiques principales des lesson studies, quand on voit que des recherches montrent une amélioration de l'enseignement, on se dit, c'est parce qu'on fait des meilleures leçons, on améliore les plans de leçons. Cette conception, dit Catherine Lewis, est une conception erronée. En fait, ce qui se passe, c'est que ça modifie les enseignants, ça modifie l'école, ça modifie le système. Ça modifie les connaissances, les croyances et les pratiques des enseignants. Ça modifie l'école qui a des communautés de pratiques, qui a du temps pour la collaboration, l'observation et l'analyse. Et ça modifie le système par la création de ces plans de leçons. C'est aussi un petit peu la diapositive que je montrais tout à l'heure. Alors, conclusion et questions ouvertes. Les questions ouvertes, ce sera pour la discussion, mais je terminerai juste par une citation de Catherine Lewis que je trouve assez jolie. Les lesson studies, c'est une idée très simple. Si vous voulez améliorer l'enseignement et l'apprentissage, quoi de plus évident que de collaborer avec vos collègues enseignants pour planifier, observer et réfléchir sur des leçons. Mais si c'est une idée simple, c'est un processus complexe qui est supporté par un aspect collaboratif des buts, par une collecte de données détaillée sur l'apprentissage des élèves et avec un protocole qui permet des discussions productives de questions d'enseignement et d'apprentissage difficiles. Je vous remercie pour votre attention.